la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire ». « Je lire » Davis Grubb, La parade des imbéciles, aux éditions Sonatine, traduit de l'anglais par Nadège Dulot. Et cette traduction en français est assez récente. C'est très exactement en 2022 que ça a été fait, alors que le livre, originellement, a été publié en 1969. Bizarrement, il n'avait jamais été traduit en France, alors que Davis Grubb est l'auteur de La nuit du chasseur, le livre qui a été porté à l'écran, notamment interprété par Robert Mitchum, le célèbre révérend Harry Powell. Et il semblerait que Davis Grubb soit plutôt doué pour les figures de gros méchants et d'incarnation du mal sans pitié. Ici, dans ce livre, il va s'agir de Doc Conceal, gardien de prison qui, semble-t-il, va faire des misères à d'anciens prisonniers. Je vous lis le résumé qui est en quatrième de couverture, ce sera beaucoup plus simple. Nous sommes en 1935, on est en pleine dépression aux États-Unis. Mais il y a une ambiance très crépusculaire et aussi très western dans ce livre. 1935, Virginie Occidentale. Après avoir passé 47 ans derrière les barreaux, Matty Appleyard franchit les portes de la prison de Glory en homme libre. À ses côtés, deux autres ex-prisonniers, le doux rêveur Billy Lee Cottrell et le jeune orphelin Johnny Jesus. Dans la poche de Matty, un joli chèque à encaisser, des indemnités de l'État qui vont permettre aux trois compères de réaliser leurs rêves. Mais évidemment, il y a la figure de Doc Conceal qui va probablement perturber tout ça. Le livre fait quelques 360 pages, et j'en ai lu pour le moment 150, et il s'est passé peu de choses et beaucoup de choses à la fois. On est surtout dans une espèce de tension permanente qui se passe avec ces trois personnages. Dès le début du livre, Doc Conceal les met quasiment de force dans un train pour les forcer à partir de la région pour qu'ils aillent refaire leur vie ailleurs. Mais le chèque que porte Matty Appleyard n'est encaissable que dans la banque de la région qu'ils viennent de quitter, qu'ils sont en train de quitter. Il y a donc une sorte de tension, il va falloir y revenir pour encaisser l'argent. Mais Doc Conceal les avait prévenus, s'ils remettent les pieds ici, c'en est fini pour eux. Donc, cette tension-là apparaît de plus en plus et on sent le piège poindre. Je vous en livre un extrait pour que vous sentiez cette langue et notamment cette atmosphère qui est très très bien décrite et développée par Davis Grubb. La gare d'Hannibal Junction était une structure haute, en bois, aux fenêtres brisées. À l'époque du boom pétrolier, c'était une gare prospère du secteur. Un arrêt figurant sur l'itinéraire de 6 trains express quotidiens. Aujourd'hui abandonnée par la compagnie de chemin de fer, elle offrait un aspect négligé et piétiné par le temps, soutenant son toit de tuiles anguleux contre le ciel violâtre déchiré, tel le voile d'une mariée à la verte fraîcheur souillée. Seule une lampe à pétrole, au ventre cuivré, restait accrochée, fumante, au-dessus du panneau de gare lépreux rouge et or, qui dépassait des briques boursouflées de la vieille promenade. Sous les grosses lettres se dressait une gigantesque machine à pop-corn, surmontée d'un dôme en treillage, pareil à un poste de pilotage de bateau à vapeur, dont la vitrine était peinte à la main de représentations rudimentaires de convives noirs exécutant un cakewalk en habit de soirée au milieu de festivités improbables. La lumière fixe de la lampe se balançait légèrement dans la brise naissante, traînant un filet d'ombre d'avant en arrière sur les pieds du trio qui attendait dans l'obscurité à côté de l'antique distributeur. C'était un drôle d'assortiment de souliers. D'abord, les bottines Endicott Johnson noires, bien cirées, de celui qu'on avait engagé. Puis les bottes de cow-boy espagnol de fausse Montgomery Ward, de son jeune apprenti. Et enfin, blanches et neuves, de toile éclatante et marquées de leur reconnaissable poids rouge, une paire de Keds. Au-dessous des genoux, ces hommes demeuraient dans les ténèbres. Bien que le mur en ardoise effritée près d'eux fût pâlement éclairé. Une affiche en lambeaux y annonçait le spectacle Évasion au Virginia Theatre de Wheeling, si bien que, comme s'il était à la fenêtre d'une pièce assiégée, Le visage disproportionné d'Harry Houdini veillait sur la nuit lustrée. À côté de ce témoin imposant était collée une publicité pour le tonique pour porc Berker, sur laquelle figurait une portée de porcelets têtant une truie blanche, dont la gorge avait été tranchée d'une oreille à l'autre, quelques automnes auparavant, par le crayon vermillon d'un écolier, et qui déversait ses gouttes de sang gribouillé pour l'éternité, les yeux fixés dans une muette sympathie sur le visage du roi de l'évasion, lui-même prisonnier d'une désintégration sans remède. Le vent soufflait par rafales brèves, cinglantes. L'orage descendait, grondant, des collines à l'ouest sous la serpe de la lune, tandis que le train de marchandises haletait non loin. Voilà pour un peu d'ambiance de cette parade des imbéciles de Davis Grubb, publiée aux éditions Sonatine en 2022, publié originellement en 1969, traduit de l'anglais par Nadège Dulot. Et parce que c'était un peu la blague qui m'a fait mettre la main sur ce livre, j'avais fait une confusion volontaire entre David Grubbs et Davis Grubb, donc l'auteur de ce livre, La Parade des Imbéciles. David Grubbs étant ce musicien américain qui pratique une sorte de folk expérimental depuis pas mal d'années. Eh bien, on va écouter David Grubbs. Après tout, ça peut donner une certaine ambiance américaine qui peut correspondre à ce livre, La Parade des Imbéciles. Thank you.
Thank you.